L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Et nous retrouvons aujourd'hui l'équipe du Parc Naturel Régional d'Armorique pour un sujet avec plusieurs façons de l'aborder, puisqu'en fait on en a déjà parlé de ce sujet. Il y a du Ramsar qui n'est pas le nom d'un pirate ni même d'un empereur inca, mais celui d'une démarche de labellisation portée par le parc pour préserver et valoriser les zones humides du territoire. Jérémy Bourdoulous est avec nous pour l'évoquer. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Peut-être, si on a la chance, on pourra aussi parler de l'aspect éducatif de ce projet sur les zones humides. On verra. Mais en attendant, on va déjà décortiquer ce Ramsar. Bon, je taquine. En fait, c'est même pas un sigle, Ramsar, c'est ça? C'est le nom d'une ville?
Tout à fait, une ville en Iran.
Une ville en Iran. Et pourquoi est-ce qu'elle a donné lieu à un label, cette ville?
Alors Ramsar, c'est la ville iranienne où a eu lieu le premier séminaire autour de la protection internationale des zones humides. Et du coup, ils ont proposé cette convention pour protéger les zones humides.
C'était il y a longtemps en plus.
À Ramsar, dans les années 70.
Ouais, 71, c'était avant même le fameux rapport Meadows qui s'inquiétait du réchauffement climatique. Donc cette convention, c'était une première, c'est ça, un premier acte de... international, de gouvernement environnemental?
Oui, tout à fait, on est dans l'histoire de la protection de la nature. Et à l'époque, l'enjeu et ce qui mobilisait les naturalistes, c'était les oiseaux, l'ornithologie, la passion vraiment de la découverte naturaliste, et puis les oiseaux d'eau en particulier. Les Français ne sont pas pour rien là-dedans. En Camargue, on avait des précurseurs sur ces questions-là. Ça a donné la Tour du Véla, le parc de Camargue qui sont nés après autour de ces enjeux d'oiseaux et d'oiseaux d'eau en particulier, quoi.
D'accord. Et c'est comme ça qu'on s'intéressait aux zones humides. Les zones humides, est-ce qu'elles étaient déjà bien attaquées à cette époque ou est-ce qu'elles étaient encore relativement préservées?
Enfin... Les années 70, on est en pleine période de destruction assez forte de ces zones humides. Elles ont commencé bien plus tôt, avant le 19e, bien entendu, mais dans les années 70, on continue encore de détruire les zones humides. Elles vont être protégées de manière plus ferme qu'à partir des années 90-2000, en fait.
Cette convention Ramsar, il y avait combien de pays qui à l'époque, qui y adhéraient, qui ont participé? Enfin, en gros, pour avoir une idée, c'était massif ou c'était un petit comité
Comme toute convention, il y a des pays qui sont assez précurseurs, qui vont lancer un peu la dynamique. Et puis elle a été rejointe progressivement par un très grand nombre de pays à l'échelle internationale. Aujourd'hui, c'est un outil qui est quand même très, très reconnu à l'échelle mondiale. Il n'y a pas beaucoup de trous sur la carte. Et du coup, en termes de labellisation, il y en a aussi beaucoup dans le monde.
Alors, ça a généré un label que n'a pas encore le parc d'Armorique. C'est une démarche qui est en cours, comme on dit.
Tout à fait.
Que faut-il faire pour obtenir ce label déjà? Qu'est-ce qu'il faut avoir?
Peut-être qu'on peut dire un tout petit mot sur l'historique de Ramsar dans le Finistère.
Ah bah oui, allons-y.
Ça part d'une étude du Muséum national d'histoire naturelle dans les années 90 qui a pré-identifié des sites en France. Et donc il y en avait plusieurs dans le Finistère. Voilà, cette étude, elle était restée dans les placards du muséum depuis toutes ces années. Et elle est revenue sur le tapis il y a quelques années lors d'un colloque sur les zones humides à Brest, où le président de Ramsar France était présent et a dit « les Finistériens, chiche, il y a quelques sites là, qui sont présentés sur une étude. Qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action là-dessus » Et donc c'est là que le département du Finistère a pris la balle au mot et est revenu vers les collectivités qui étaient en responsabilité autour de ces cinq zones humides finistériennes. Donc la baie d'Audierne qui a fait l'objet de la labellisation l'année dernière, les Monts d'Arrée qui va être le deuxième site, on l'espère, en 2024. Et puis potentiellement la baie de Morlaix, la rade de Brest, Goulevin, Kerema, etc. Il y a plusieurs sites potentiels.
Et ces sites, ils sont désignés comment? C'est quoi les critères en général? Parce que ça paraît énorme en plus.
Ouais, alors, les critères historiques, ils étaient vraiment sur la notion de zone humide et d'oiseaux. Il fallait avoir un nombre d'oiseaux au niveau international qui fasse une référence et qui montre vraiment l'intérêt international du site. Et puis au fur et à mesure des années de la prise de conscience de l'intérêt des autres compartiments de la nature, ça s'est élargi à la faune, la flore de manière générale. Donc il y a une dizaine de critères Il faut répondre à seulement quelques-uns de ces critères, mais ça s'est beaucoup ouvert, ce qui fait qu'on n'a plus seulement des lagunes littorales, mais les tourbières des Monts d'Arrée, bah, c'est tout à fait un site qui peut entrer dans la labellisation Ramsar.
Et en ce qui concerne le parc d'Armorique, ça sera quoi les Monts d'Arrée, ça veut dire quoi?
Alors, les Monts d'Arrée, c'est des petites zones humides éparses. C'est pas un grand marais comme la Brière ou autre. Hein. Donc, en gros, c'est ce paysage de Landes et Tourbières qu'il y a autour des crêtes des Monts d'Arrée, juste au pied des rocs. Donc, on inclut évidemment les Tourbières. C'est l'habitat naturel phare de ce site Ramsar en devenir.
C'est le Yonne, c'est ça ?
Et les Landes humides qui sont autour, qui sont les grandes surfaces, en fait. Donc, c'est les marais du Yonne-et-Lèze, c'est un des éléments types. La tourbière du Cragou, les tourbières de Ménesmeur, voilà, c'est vraiment tout un ensemble en fait cohérent. Et c'est pour cette question que les Landes font aussi partie de la réflexion, puisqu'on ne peut pas les déconnecter en fait. Hein, c'est vraiment l'ensemble des Monts d'Arrée.
Et c'est uniquement les Landes et tourbières. Il n'y a pas de vasières, parce que dans le parc d'Armorique, c'est pas ça qui manque en termes de zones humides. On en a quelques-unes.
Ouais, alors les vasières, c'est sur la rade de Brest. Donc on ne peut pas attaquer tous les chantiers en même temps. Aujourd'hui, sur la rade de Brest, il y a d'autres dynamiques comme le contrat de rade ou autres qui travaillent sur l'amélioration qualitative de la qualité de l'eau, etc. Et peut-être que dans quelques années, ça deviendra un sujet. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les Monts d'Arrée, c'est le projet du moment. Quoi.
Et avoir un label Ramsar, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, c'est quoi l'intérêt en fait, d'avoir un label alors qu'on a déjà des protections extérieures ?
Ouais. Alors Ramsar, c'est inscrit dans la loi, mais c'est simplement une mention, donc il n'y a pas de contrainte réglementaire. Ce n'est pas un outil de protection, ce n'est pas une couche supplémentaire du millefeuille des protections.
Il n'y a pas de sanction derrière, c'est ça en fait ?
Du tout. Il ouais. n'y a pas de budget, il n'y a pas de financement dédié à ça non plus. Par contre, c'est un formidable levier pour mobiliser en fait un territoire autour de la protection, de la connaissance de la protection de ces zones humides. C'est vrai que le parc travaille depuis de nombreuses années sur les Monts d'Arrée, c'est pas un sujet nouveau pour nous. Il y a eu la mise en place de Natura 2000 qui était pour le coup une protection réglementaire, le projet Lifeland, il y a pas mal d'actions qui sont menées. Mais on se rendait compte au bout d'un certain nombre d'années qu'en fait on mobilise les élus, certains acteurs privés, entreprises, etc. Mais il faut une mobilisation plus globale pour arriver aux objectifs de protection. Et là, l'idée, c'est d'entraîner la population, les habitants, les écoles, de manière beaucoup plus large autour de ces zones humides.
Voilà. Un peu comme le label Géoparc, finalement, c'est pas très éloigné.
Oui, on est dans la même logique que le label Géoparc ou que la réserve de biosphère en mer d'Iroise. Là, il est vraiment ciblé sur un espace géographique et puis écologique.
Et c'est pas dirigé par l'UNESCO aussi en termes de cuisine ?
Non, c'est pas l'UNESCO qui gère ça, c'est vraiment la convention, le secrétariat de la convention internationale de Ramsar qui est une association.
Alors, le calendrier de cette labellisation
Ouais, alors, on a mené une première série d'ateliers avec les habitants, avec les partenaires techniques dans le courant de l'année dernière. On continue ce travail cette année encore. Donc l'objectif, c'est bien de concerter tout le monde, que chacun puisse apporter ses propositions, ses idées. On nous a dit, il y a plein de données scientifiques dans les armoires de l'UBO à Brest. Comment on peut faire en sorte que ces données, elles arrivent jusqu'aux habitants ? Il y a des castors dans les Monts d'Arrée. Comment ça se fait que tous les habitants des Monts d'Arrée ne sont pas sensibilisés ou ne connaissent pas encore ces petites choses de patrimoine très riches ? Donc voilà, c'est tout ça un peu qu'on assemble et qui va constituer le dossier de candidature dans lequel il y a deux volets. Un premier, c'est l'argumentaire scientifique. Donc là, on travaille avec le Conservatoire botanique, avec l'Association Bretagne Vivante, tout un tas d'experts scientifiques qui doivent argumenter pour ce territoire. Et puis le deuxième volet, c'est la partie plan de gestion, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les années à venir concrètement sur le territoire, quelles actions on va mener. C'est là qu'on rejoint plutôt des actions de sensibilisation, de mobilisation des citoyens, de chantiers participatifs,
tout un tas de choses. Ça pourrait être ça. Ouais. Des chantiers participatifs, par exemple, quoi
Un étrépage sur une tourbière.
C'est quoi un étrépage ?
Le type de chantier classique qu'on aime bien mener. les tourbières, elles ont la capacité formidable de stocker des graines dans le sol. Donc chaque année, il y a une petite couche de graines qui est bancarisé dans le sol, et quand on vient gratter ça, soit avec les pneus d'un tracteur, soit avec une petite pioche, quand on veut faire ça de manière un peu chirurgicale, et ça fait revenir les plantes qui étaient là il y a 50 ans. Et donc ça amène des belles surprises, c'est comme ça qu'on retrouve des espèces d'orchidées qui avaient disparu, ou de fougères très rares, par exemple.
Ah oui, d'où l'importance de ne pas trop sanctuariser ces endroits, c'est ça. Enfin, notamment, vous avez travaillé, je crois, avec les agricultrices et agriculteurs. Pourquoi ?
Ouais, les monts d'arrêt, Ramsar, c'est pas du tout un sanctuaire, c'est pas d'idée. Les landes des monts d'arrêt, elles ont vraiment connu une évolution depuis le Moyen Âge en lien avec les pratiques de l'homme. D'abord des grands défrichements et puis ensuite des cultures sur brûlis, du pâturage, etc. Et c'est tout ça qui a façonné cet espace. Les courlis cendrés des monts d'Arrée, il y a des centaines et des centaines d'années, ils n'étaient pas présents sur cet espace. Ça s'est vraiment façonné dans une coévolution avec l'homme. Et c'est cet équilibre qu'on souhaite préserver et maintenir hein, dans le cadre de Natura 2000, mais aussi de Ramsar. L'idée, c'est bien d'appuyer sur ce point-là. Donc, ce n'est pas une mise sous cloche du tout. Ce n'est vraiment pas ça l'idée. C'est travailler avec les acteurs locaux qui font déjà des choses et les renforcer. Donc, ça, c'est les agriculteurs avec les programmes agro-environnementaux qui permettent de financer ces actions. Et puis, créer de nouveaux partenariats. Par exemple, on sait aujourd'hui que les tourbières, c'est une source très importante de stockage de carbone. Et donc, voilà, ça intéresse aussi certains partenaires de voir comment on peut restaurer ces tourbières pour mieux stocker du carbone à l'avenir. Donc ça nous amène vraiment à des débats actuels qu'on a sur la charte du parc qui est en révision, pour voir comment on peut restaurer plus d'espace. C'est trouver des nouveaux leviers.
Et l'agroécologie, c'est quoi, par exemple, ce qui va en faveur des landes et tourbières humides ?
Ouais, alors, il y a deux pratiques fortes dans les monts d'arrêt, le pâturage des landes, pâturage par des ovins, des bovins, ça je dirais c'est assez classique sur la période estivale souvent. Et puis la fauche des landes, qui est vraiment une pratique qu'on va retrouver que dans les monts d'arrêt à l'échelle européenne, je ne la connais pas ailleurs en tout cas. Hein. Elle se fait en Espagne, au Portugal, puisqu'ils ont aussi des landes là-bas sur les côtes ouest, mais c'est de la fauche manuelle, donc on est sur d'autres pratiques. La fauche des landes avec des tracteurs et des faucheuses, comme ça se fait dans les monts d'arrêt, ça existe nulle part ailleurs en Europe. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ça permet de rajeunir la végétation, de diversifier le paysage, d'avoir des landes hautes, des landes rases. Et nos espèces animales ou végétales, elles ont besoin de ça pour se reproduire. Le courlis cendré, par exemple, il niche dans une lande qui a été fauchée un an ou deux ans avant. S'il n'y a plus ça, il va avoir des problèmes pour nidifier, puisqu'il niche vraiment au sol.
Et techniquement, ça peut être difficile de mettre des tracteurs dans des landes humides, ça ne s'enfonce pas. Enfin, j'ai une vision d'apocalypse.
c'est toute la question. Dans les landes qui sont très humides, c'est un petit peu plus compliqué, mais les exploitants agricoles connaissent très bien leur terrain, ou plutôt connaissaient très bien leur terrain. Et justement, il y a un enjeu de transmission des savoir-faire. Il faut qu'on travaille aussi sur cet aspect-là, de comment on forme les jeunes agriculteurs qui viendraient d'ailleurs pour appréhender ces espaces-là. Sinon, un peu pour point comme ça, quand on ne sait pas où sont les cailloux, les trous humides, c'est pas évident de se lancer là-dedans. On peut casser du matériel, etc. Donc ça, c'est un axe de travail qu'on a.
Et un autre enjeu qui n'est plus à si long terme que ça, c'est le changement climatique. Enfin, il y a eu deux impacts, là, surtout dans les monts d'arrêt. Bon, il y a eu les incendies et une sécheresse que les monts d'arrêt n'avaient pas connue. Quel peut être l'impact de tout ça sur les landes et zones humides en général ?
C'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, il est humide, mais il était aussi chaud l'été dernier, hein, effectivement. On a bien observé les tourbières l'été dernier. On voit que quand l'incendie est passé sur les tourbières qui étaient en bon état, il y avait un niveau d'eau suffisant. Et du coup, elles n'ont pas brûlé, hein, ces tourbières-là. Ça résiste très bien à l'incendie, et donc on va l'observer ce printemps, les végétations vont bien se reconstituer.
Elles ne se sont pas asséchées non plus, en fait.
Non, on voit déjà les sphaignes hein, qui sont à l'œuvre là-dessus. En fait, les tourbières, l'été dernier, elles ont plutôt souffert de la sécheresse qu'il y a eu juste avant et puis pendant l'incendie, plus que de l'incendie en lui-même. Pour les tourbières qui n'étaient pas en bon état de conservation, c'est-à-dire qui avaient subi des drainages, en l'occurrence des drainages qui étaient faits il y a très longtemps pour des pratiques agricoles ou forestières, là par contre, le feu peut rentrer dans la tourbe et puis détruire durablement le stock de carbone qui est présent à l'intérieur.
Et les sécheresses, donc, elles peuvent... Enfin, il faudrait des sécheresses plusieurs années de suite pour vraiment abîmer les tourbières ou...
Oui, il y a vraiment une capacité de résistance hein, de ce milieu tourbière qui peut séquestrer aussi de l'eau pendant plusieurs années. Je pense qu'elles ne sont pas remises en question aujourd'hui dans les monts d'arrêt. C'est pas le sujet du moment. On voit qu'au Portugal, etc., elles se maintiennent aussi encore. Et pourtant, ils ont des climats déjà plus chauds que le nôtre. Donc ce paysage de landes et de tourbières, il n'est pas menacé sur du court terme par le changement climatique. Mais par contre, ses fonctions, elles peuvent évoluer. Peut-être que ça va stocker moins d'eau, peut-être que ça va stocker moins de carbone. La végétation peut évoluer à la marge, mais ça va rester quand même quelque chose d'assez typique dans cette ambiance-là.
Et ce label Ramsar, il pourrait être obtenu quand, en gros
L'idée, c'est de déposer le dossier de candidature à la fin de cette année ou au début d'année prochaine. Ensuite, il y a un processus administratif administratives, d'instruction de dossiers. Il va y avoir une visite aussi sur site du Conseil national de protection de la nature. Donc c'est quelque chose de très, très sérieux, qui viennent voir sur le terrain que ce qu'on raconte, c'est véridique. Voilà, à la fois en termes de patrimoine, d'état des milieux, puis il faut prouver quand même qu'on est sur un site qui est aussi en bon état et qu'on a mis en place les moyens de concertation et de gestion de l'espace. Donc voilà, ils peuvent demander à rencontrer des maires, des collectifs ou autres pour s'assurer de la véracité du dossier. Et ensuite, la labellisation, elle sera obtenue en 2024. Hein, c'est ça le
but. Ah oui, c'est assez rapide,
ouais,
finalement.
Tout à fait. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm.
Et nous allons pouvoir aborder le deuxième volet de cette protection, défense des zones humides. On sait que pour protéger, bien, rien de mieux que la sensibilisation et l'éducation. Et on va l'évoquer avec Katel Guillou, qui est chargée de mission projet culturel et pédagogique. Bonjour Katel.
Bonjour.
Alors il y a eu un appel à projet scolaire qui a été mené par le parc, là, enfin qui se termine en fait, c'est ça, en 2022-2023. Ça consistait en quoi exactement cet appel à projet ?
Alors l'appel à projet, c'est un dispositif qu'on a mis en place il y a déjà plus de à peu près 15 ans. Donc tous les ans, on propose aux écoles du territoire et aux élèves du CE2 à la 6e de travailler sur une thématique. Et donc cette année, justement, la thématique proposée était les zones humides.
Donc voilà, c'était pas un hasard, je suppose.
Non, c'était pas un hasard. On essaye de toute façon chaque année de proposer une thématique qui soit en lien avec les actions et les projets menés par le parc. Donc effectivement, ça faisait écho au travail de labellisation Ramsar dont vient de parler Jérémy, et puis aussi écho à l'été qu'on avait subi, notamment dans les Monts d'Arrée.
Ah oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, ça consiste en quoi pour les classes, pour le parc
Alors le parc en fait donc propose effectivement cette thématique avec ses partenaires sur le territoire, que ce soit les musées, maisons de découverte ou autres partenaires qui interviennent dans l'éducation à l'environnement, également des artistes. On propose un panel d'interventions possibles sur cette thématique. Ensuite, c'est aux enseignants de construire leur projet et donc de soumettre le projet au parc, bien évidemment. Et on va leur apporter une dotation financière, justement, pour pouvoir soit financer des sorties, des interventions sur site. On les accompagne aussi tout au long du projet. On intervient dans chaque classe au début de l'année. Enfin, là, c'était au début 2023. On leur met à dispo des outils pédagogiques ou de la documentation sur la thématique également. Et on les réunit, tous ces élèves, toutes ces classes, au domaine de Ménesmeur, avec tout au long d'une journée où ils vont avoir l'occasion de découvrir Ménesmeur. Donc il y a un petit temps récréatif, mais il y a aussi surtout un temps qu'on appelle le marché au savoir, où là l'idée c'est vraiment que les uns les autres, ils se présentent ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire, ce qu'ils ont travaillé sous la forme d'ateliers, de jeux. Donc c'est vraiment les enfants qui parlent aux enfants et qui échangent leurs connaissances. Et vraiment, c'est un temps très, très stimulant. Et puis de voir que les enfants prennent en main comme ça le transfert de connaissances, c'est vraiment très, très chouette.
Et donc, c'est 200 élèves qui ont participé. Il y a eu 6 projets, c'est ça, en gros, enfin 6 territoires, si on peut dire.
Alors, il y a 6 écoles qui sont impliquées, certaines avec plusieurs classes. Donc, on est à 9 classes.
Et comment, ils travaillent tous ensemble ? Non, c'est classe par classe dans ces cas-là ?
Ça dépend. Par exemple, à Logona d'Aoulas, l'école, c'est... il y a les 2 classes du CE2 jusqu'au CM2. Et donc là, les 2 enseignants travaillent ensemble et font des sorties ensemble. Et par exemple, il y a aussi le collège de 6-1 qui a ces 3 classes de 6e qui sont impliquées, où là, ils travaillent effectivement ensemble aussi, mais sur des pistes ou des angles d'attaque un peu différents, on va dire.
Et en quoi consistaient les 6 projets ? Est-ce qu'on peut en discuter un peu, enfin, les présenter ?
Oui, bien sûr. Il y a donc l'école de Logona d'Aoulas dont je parlais, en fait, qui a déjà une aire marine éducative donc, à l'école, sur le site de Moulin-Mer, l'ancien moulin à marée. Et donc les élèves voulaient en savoir plus justement sur l'étang qui alimentait le moulin, qui est donc une zone humide, qui est un peu à l'interface terre-mer. Donc l'idée, c'est de découvrir ce site-là un peu plus... plus précisément. Donc sur Cisa, au collège de Cisa, ils ont aussi travaillé sur leur aire éducative terrestre,
ouais, voilà, pour le coup.
qui se trouve au bord de l'Élorne et sur lequel ils ont une zone humide. Donc voilà, c'était aussi approfondir les connaissances là-dessus et restaurer petit à petit la zone humide qui est sur leur ATE en bord de l'Élorne. Au collège Louis-Aymon à Plébin, voilà, le travail faisait aussi écho au travail des élèves sur leur aire terrestre éducative. Et là, en fait, leur idée, c'était de travailler sur l'oralité, sur les contes, donc avec une conteuse, et de réinvestir en fait leurs connaissances sur les zones humides à travers des contes qui ont travaillé eux-mêmes. L'école d'Anvec aussi était impliquée cette année. Donc là, ils souhaitaient découvrir un site qui est assez proche de l'école, le site de la Madeleine.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un lavoir, en fait. Ah, oui. Voilà. Donc, une autre zone humide qu'ils voulaient découvrir, avec peut-être l'idée derrière de créer une aire terrestre éducative aussi.
Donc, et alors, finalement, elle a été créée ?
Peut-être l'année prochaine.
Ah oui, d'accord.
C'est encore en travail, mais là, c'était une première approche de ce site-là. Mais après, ça ne veut pas dire clair. Voilà, les enfants iront peut-être vers d'autres terrains. Donc ça, c'est eux qui choisiront. On avait l'école Josette et Jean Cornec de Quimère, pareil, sur leur aire terrestre éducative. Eux, ils souhaitaient restaurer une mare qui était présente avant sur ce site-là. Et donc, les enfants ont travaillé à nettoyer et observer la mare, justement, tout au long de l'année scolaire. Et pour finir, il y avait également l'école de l'Opérec, pareil, qui a également une aire terrestre éducative, près d'un petit ruisseau qui est un affluent de la Dauphine. Et donc, voilà, ils voulaient approfondir toujours leurs connaissances sur cette partie-là et en savoir plus sur cette zone humide.
Donc finalement, les zones humides qui ont été travaillées par les écoliers, c'est à peu près tout sauf des tourbières, c'est ça ? Mais est-ce que, alors je ne sais pas si Jérémy ou Catel, est-ce que les élèves ont quand même été visiter les tourbières en lien avec le futur label Ramsar ou pas du tout ?
Alors dans la plupart des cas, en fait, les élèves, l'objectif c'était de connaître aussi les zones humides à côté de l'école, mais il y avait aussi tout un point du projet qui consistait à comparer en fait les zones humides. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Logona d'Aoulas, ils ont aussi été visiter le site du Mougo à Comana. Et sur la tourbière du Mougo. Et donc l'idée aussi, c'était de comparer les types de zones humides.
La végétation,
tout ça. Le fonctionnement, voir comment les différents milieux peuvent être liés. Donc c'est aussi l'intérêt de ces projets-là, c'est de pouvoir à la fois s'intéresser à ce qu'on a à côté de l'école, mais aussi de faire un pas de côté pour voir qu'est-ce qu'il y a un peu plus loin.
Et alors, est-ce qu'on peut savoir en quoi va consister, en gros, la restitution du 16 juin à Ménesmeur ?
Alors, en termes de rendu pour les écoles ?
Est-ce qu'on sait quelle production il y a eu ? Je ne sais pas s'il y a eu des productions, sûrement, il y a un compte.
Alors, des comptes, oui, c'est sûr. Et pour l'instant, c'est encore en travail, hein, parce que voilà, les écoles, ils sont en train de peaufiner leur projet, mais ça va beaucoup s'axer autour du jeu, d'après ce que j'ai compris, des jeux, notamment... des jeux de loi ou des choses de cet aspect-là pour faire découvrir aux autres les zones limites.
Est-ce qu'on sait déjà quel sera le thème de l'appel à projet l'année prochaine ? C'est toujours autour de la nature ou ça peut être différent ?
Les thèmes thématiques, ça a pu être effectivement souvent autour de la biodiversité, de la nature. On en a eu aussi autour du paysage, autour de l'identité. Il y a une année, on a été travailler sur les différentes cultures, on va dire. Donc, pas forcément. Donc là, la thématique, elle est toujours en travail avec l'éducation nationale.
Ok, on verra plus tard. Jérémy, puisque là, la saison touristique approche et qu'il nous reste 2 minutes, les zones humides, elles sont déjà valorisées par rapport au tourisme et comment ?
Une fois de plus, dans les Monts d'Arrée, pour aller voir les tourbières, le meilleur moyen, c'est la randonnée. Il y a un nombre de circuits de rando vraiment importants et qui sont tous très intéressants dans les Monts d'Arrée. On peut citer ceux de Ménesmeur, par exemple. Le circuit Land des Tourbières, pour le coup, il va être restauré cet été. Les passerelles, elles ne sont pas encore ouvertes, mais celui-là, il est vraiment super en temps normal. sur toute la crête des monts d'Arrée, on peut voir des tourbières à proximité du chemin. Donc voilà, le guide de rando, et puis c'est parti sur les sentiers. Quoi. C'est
parfois, il y a de l'interprétation localement, des panneaux d'interprétation, des outils à signaler.
Alors, on peut citer la tourbière du Mougeot, qui est vraiment un site très accessible avec des passerelles, et donc qui est vraiment très, 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 très bien fait pour ça.
C'est très court en plus.
C'est facile. Ouais. On peut y aller en famille. Les panneaux d'interprétation, ils vont être revus prochainement, peut-être pour cet été. Je n'ai pas la date exacte. Et puis, du côté du parc, on a aussi quelques panneaux d'interprétation qui vont être proposés au Roc Trévézel. Il y a aussi le site de la montagne Saint-Michel qui va être aménagé pour cet été. Donc là, il y a aussi un sentier d'interprétation qui parle de paysage, de nature et tout ça. Donc, pas mal de choses là quand même.
Bon. Et puis, si je peux me permettre, le mercredi prochain, domaine de Ménesmeur, justement dans le cadre de la fête de la nature, on propose un jeu qui s'appelle 1000 lieux humides. Donc,
c'est un petit jeu. Ah, bah voilà.
Donc voilà, donc c'est un petit jeu à venir faire en famille. Donc, faut pas hésiter à venir découvrir les milieux humides à travers cette.
Il faut réserver avant, je suppose, non?
Oui, oui, voilà.
Auprès de Ménesmeur.
Au domaine de Ménesmeur.
Directement.
Voilà.
Merci à tous les deux. Et ben, on retrouvera le parc d'Armorique très bientôt. Et puis en attendant, on écoute l'émission sur le site internet. Au revoir.
Merci.